Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Des représentants de la majorité des pays membres de l'Union africaine ont été accueillis au Rwanda la semaine dernière pour discuter de la mise en œuvre de la réforme de l'organisation panafricaine pour la rendre plus efficace. Parmi les propositions des réformes formulées à la clôture de ces assises figurent notamment la diminution du champ d'intervention de l'organisation sur les affaires politiques, la paix et la sécurité, l'intégration économique et les moyens pour l'Afrique de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-49-69 pour vos interventions directes. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Héritier Sidiakala est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Et Pierrot Elamejiu vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamejiu. La MONUSCO continue sa campagne de sensibilisation sur la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la ville de Kinshasa. Ce vendredi 19 mai, à partir de 10h, dans la salle paroissiale Sainte-Anne de la Gombée. Les responsables de la MONUSCO échangent avec plus de 500 professeurs d'université. La CENCO, initiatrice de l'accord du 31 décembre 2016, sera aussi de la partie. Objectif, éclairer l'opinion publique sur la lettre et l'esprit de la résolution 2348 et surtout son appropriation.
Rappelons que la réforme de l'Union africaine pour la rendre plus efficace, la mission a été, la tâche a été confiée au mois de juillet 2016 au président rwandais Paul Kagame. Et ce dernier a rendu son rapport en janvier dernier à Addis Abeba lors du dernier sommet de l'institution panafricaine. Et les délégués se sont retrouvés au Rwanda pour discuter de cette réforme qui vise principalement, comme je le disais tout à l'heure, principalement la diminution du champ d'intervention de l'organisation sur les affaires politiques, la paix, la sécurité, l'intégration économique et surtout les moyens pour l'Afrique de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Quel est votre commentaire par rapport à ces projets de réforme forme de l'Union africaine? Le débat est ouvert. Maître Gervais, merci de nous avoir appelé de Kalemi dans la province du Tanganyika. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour Monsieur Nico, bonjour à l'invité, bonjour à mes parents, Sango Mouganza François et moi, Karombo Joséphine. Oui, allô?
Oui, vous avez dit sur la page Facebook, Maître Hervé, que c'est une belle initiative, mais il faudrait arriver à la conclure. Mais au même moment, vous vous inquiétez pas, vous estimez qu'on brûle les étapes. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela?
Oui, pardon. Sur cette question, j'aimerais bien voulu que, avant d'entamer les autres processus, aux autres procédures, que l'Union africaine puisse un peu au départ, parce que là, je me suis basé sur les objectifs fixés à l'article 3e de l'acte constitutif de l'Union africaine, en m'appuyant sur le point F qui dit que l'Union africaine a pour objectif de pouvoir maintenir la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain. Sur cette question, mais aujourd'hui nous voyons que le pays lui-même, dans le continent tout entier, les pays membres, certains de ces pays membres sont un peu en déséquilibre total. Il y a toujours des déstabilisations, il y a manque d'eau, il y a toujours des tiraillements de part et d'autre du point de vue économique, social, politique. Mais si maintenant le pays, dans l'Union africaine, diminuait ces interventions-là, ça risquerait de produire des conséquences néfastes dans l'avenir du continent africain, surtout dans les pays faisant partie de l'Union africaine.
Mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'action de l'Union africaine est plus efficace quand il y a par exemple des conflits sur le continent, que ce soit des conflits armés, des conflits politiques issus par exemple de l'organisation des élections? Pensez-vous que les interventions sont assez efficaces de l'Union africaine?
Non, présentement vraiment, les interventions sont inefficaces. C'est pas vraiment les interventions dont c'est que c'est inefficace. Pourquoi? Parce que l'Union africaine ne répond pas favorablement. Parce que voyons, dans tous les pays membres, il y a toujours de sérieux problèmes qui ne sont pas résolus. Et donc, l'Union est là permanente, tout le comité est donc restreint à tous les niveaux. Mais ne résout pas. Mais pourquoi maintenant l'Union veut aller tout loin, donc très loin, sans qu'elle ne résolve pas les conflits internes au niveau local?
Voilà, on va en voir avec notre invité tout à l'heure sur la réforme peut apporter assez d'efficacité dans l'intervention de l'Union africaine. Merci. Le professeur Alphonse Ndoubalaba est déjà avec nous, mais en attendant, nous allons à Lubumbashi, Maître Sonville. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vous avez estimé que la réforme ne peut pas avoir d'impact s'il n'y a pas l'amélioration de la gouvernance dans le pays africain. Bonjour, Maître.
Bonjour, monsieur Thierot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Bonjour aussi à notre invité, le professeur Ndoubalaba. Par rapport à ma déclaration, c'est vrai, s'il s'agit de réformes pour améliorer les conditions de vie, la stabilité, la paix sur le continent africain, c'est tout à fait normal. Mais aussi longtemps qu'il y a beaucoup de préalables qui ne sont pas encore réunis, il y a beaucoup de conditionnalités qui doivent être répondues auxquelles on doit répondre favorablement par rapport à ces réformes. En tout cas, moi, j'estime que c'est d'un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi j'ai dit cela? Monsieur Pierrot, vous comprendrez avec moi. L'Afrique, c'est le continent le plus instable pour le moment. Il y a des guerres dans toutes les sous-régions, des guerres partout, puisque les textes ne sont pas respectés. Si l'Union africaine peut aider nos dirigeants africains de respecter la Constitution, de respecter les libertés fondamentales inaliénables à un être humain, là, à ce moment-là, ça peut aller de l'avant. Nous avons quand même vécu un exemple d'un comité sous-régional tel que la CDAO. Lorsqu'il y a eu des problèmes en Gambie, la CDAO a pris les choses en main et elle est arrivée à bout de M. Yahya Jammeh. Mais par contre, on peut même refuser les immigrations, tout ça. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas la répartition équitable des ressources du pays, ces réformes ne serviront absolument à rien. Ce n'est pas de la bouillabaisse, là où l'Union africaine peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et si nous voyons aujourd'hui la sous-région dans laquelle il y a l'instabilité totale, c'est l'Afrique centrale, puisque nous n'avons pas de bons dirigeants au sein de ce comité sous-régional, la CEAC. Si au moins il y avait des chefs d'État responsables et respectueux des textes, des chefs d'État qui prennent avec conscience, avec beaucoup de considération de la population, on ne serait pas arrivé à ce point. Il y a eu le CRGN, là où le professeur Ndoubalaba fut même le délégué de l'Afrique. Mais les dispositions prises au niveau de la CGRN n'ont pas été respectées. Il y a eu autant de réunions. D'abord, les chefs d'État ne respectent pas les engagements auxquels ils sont astreints par rapport à l'évolution, par rapport à l'amélioration des conditions de vie dans leur sous-région. Mais si aujourd'hui on partait à des réformes, aussi longtemps qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre au sein des pays,
des
au sein des organisations sous-régionales, on n'ira absolument rien.
Merci.
Il n'y aura pas de résultats escomptés. Mais moi, je pouvais dire ceci, si aujourd'hui la démocratie est de mise, favorisée par l'Union africaine dans tous les pays, c'est juste la bonne gouvernance. Nous, si aujourd'hui nous assistons par exemple aux Congolais qui se rendent au Congo-Brazza, qui se rendent en Afrique du Sud, qui se rendent en Zambie, qui sont éparpillés à travers le monde, parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Les gens étudient. Après les études, il n'y a pas de travail. Les gens étudient. Après les études, il n'y a pas d'amélioration de vie. Lorsqu'on trouve quand même quelque chose, un emploi quelque part, le salaire n'est pas décent. C'est un salaire dérisoire. Alors, les gens ont envie d'aller ailleurs pour trouver leur
alors là, vous estimez, Maître Sonville,
les cerveaux.
Et tout à l'heure, vous avez dit, Maître Sonville, que pour vous, il faudrait que l'Union africaine travaille plus pour favoriser la démocratie
l'amélioration de la gouvernance à l'interne, cela peut faire à ce que l'organisation puisse devenir plus efficace. Merci. On revient directement à notre invité, professeur Alphonse Tumbaloba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, cher ami.
Alors, est-ce que c'était impérieux aujourd'hui de penser, de lancer les processus de réforme de l'Union africaine?
Je voudrais saluer d'abord tous les participants, notamment Maître Sonville à partir de Lubumbashi. Et je m'excuse aussi pour ma voix, c'est le changement de saison, il y a la grippe.
On comprend.
Bon, c'est important de lancer une réforme aujourd'hui. Mais si cette réforme aboutit, le problème c'est que les mêmes acteurs et les mêmes pesanteurs peuvent venir et miner cette réforme. Mais c'est déjà une bonne initiative parce qu'elle consiste dans la rationalisation du champ d'action de l'Union africaine. Donc en d'autres termes, que demander à l'Union africaine de se concentrer sur l'essentiel, notamment sur quatre domaines prioritaires, dire les affaires politiques, la paix et la sécurité, l'intégration économique, et puis donner à l'Afrique les ressources, les moyens pour faire entendre sa voix sur la scène internationale. Et en filigrane, on pense au problème d'un siège de membres permanents du Conseil de sécurité. Mais c'est aussi la rationalisation de ces institutions avec une division de travail entre les organes, mais surtout la réforme financière. Parce que vous savez que pour son budget d'investissement pour ses activités, l'Afrique dépend pour pratiquement 98%, de 98% des partenaires extérieurs, dont l'Union européenne et ses pays membres. Alors il y a cette fameuse taxe, dite taxe Kaberuka, qui consisterait à un principe d'une taxe de 0,2% sur certaines importations. Jusqu'à présent, je ne sais pas encore quelles importations. Et puis ça pose des problèmes parce que vous savez, on va prélever une taxe de 0,2%. Est-ce qu'il y a harmonisation de la fiscalité des pays africains? Est-ce que nous avons un régime de douanier commun? Alors je ne sais pas, les 0,2% là en réalité ne couvrent pas la même réalité dans tous les pays africains.
Voilà.
Bon, mais c'est tant mieux qu'on essaie d'aller de l'avant. Et je voudrais rejoindre Maître Sonville pour dire que la visibilité de l'Union africaine est presque nulle, l'effectivité. Il faut que, lorsqu'il y a des problèmes qui se passent quelque part, comme on en a eu au Kasaï avec le Kamuina Nsapu, ou à Beni Butembo, on puisse sentir que l'Union africaine est là. Lorsqu'il y a des catastrophes humanitaires, qu'on puisse voir débarquer des avions de l'Union africaine avec de l'aide alimentaire, avec de l'assistance. Lorsqu'il y a Ebola, on voit l'Union africaine qui envoie des médecins qui sont sur terrain. Mais la réactivité, la proactivité de l'Union africaine par rapport aux problèmes africains est presque
Mais professeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
déjà nous avons des bons textes. Mais nous ne les appliquons pas. Et l'Afrique a adopté des très bons textes, mais on ne les applique pas.
Oui, professeur, mais tout à l'heure, vous avez évoqué les mêmes acteurs, les mêmes pesanteurs. Maître Sonville évoquait la question de la gouvernance interne de pays, parce que ce sont ces pays qui constituent l'Union africaine. Mais dès lors qu'on a encore des problèmes sérieux de gouvernance dans ces pays pris individuellement, pensez-vous que l'ensemble de ces pays puissent arriver vraiment à poser des actes plus efficaces?
Mais vous savez, bon, dans les domaines considérés comme prioritaires maintenant par l'Union africaine dans le cadre de la réforme, ils disent les affaires politiques, bon, la paix et la sécurité. Mais les affaires politiques, il faut bien spécifier, il faut indiquer l'amélioration de la bonne gouvernance, la démocratie, les problèmes de droits de l'homme. Vous savez que l'année 2016 avait été consacrée par l'Union africaine comme l'année de droits humains.
Oui, exact.
Bon, quel est cet Africain qui a senti que cette année, nous sommes au niveau de l'Afrique dans l'année des droits humains. Bien au contraire, on l'a vu au siège même de l'Union africaine à l'OEA, les Oromo et les autres là, maltraités, tués, parce qu'ils manifestaient tout simplement, et ils manifestaient les mains levées. Mais l'Union africaine était là, personne de l'Union africaine n'est sorti du siège pour aller vers ces Oromo et les autres et leur dire pourquoi vous manifestez. On n'a jamais évoqué ces problèmes-là. Mm-hmm. Pourtant, ça s'est passé au siège de l'Union africaine. Donc, il faut bien que l'Union africaine se préoccupe des problèmes de la gouvernance, et des problèmes de la démocratie. C'est bien. Nous condamnons les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Vous savez que ce sont les conflits autour des élections, autour du pouvoir, souvent qui minent l'Afrique. Mais que fait l'Union africaine? J'ai entendu une discussion sur le problème de maintien au pouvoir, contrairement à la Constitution, ou en violation de la Constitution. Mais le chapitre a été ouvert à l'Union africaine, j'étais présent, et ils l'ont vite refermé et renvoyé. Donc il y a quand même un problème, mais il y a des régions qui avancent. Il faut nuancer un peu le propos de Metsonville, et heureusement lui-même a nuancé, il y a quand même des régions qui avancent, mm-hmm. comme l'Afrique de l'Ouest, et des régions qui font avancer les choses. Un problème, je vais m'arrêter là, qui mine l'Union africaine, c'est la prise des décisions par consensus. Lorsqu'on a voulu envoyer des militaires, des observateurs de droits de l'homme en nombre au Burundi, la décision était pratiquement prise au niveau du Conseil de sécurité composé de chefs d'État, mais il a suffi de deux chefs d'État, Kagame et puis un autre là, c'était Alpha Condé, pour que la décision soit bloquée et on n'a plus envoyé. Ces problèmes de consensus aussi mm-hmm. bloquent.
L'Union africaine. On va revenir à vous, professeur Maître Olivier, vous êtes à Gbadolité. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour également au cher invité.
On vous écoute, Maître Olivier.
Oui, en tout cas, merci monsieur le journaliste pour cette parole. En fait...
Maître Olivier, des petits soucis de ligne, on a perdu Maître Olivier de Gbadolité à Kindu, ingénieur Valérie, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Pour vous, comment cette réforme peut-elle aujourd'hui être plus efficace pour permettre, comme le professeur le disait tout à l'heure, à l'Union africaine de déjouer son rôle et comme il faut sur le continent?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Bonjour et bonjour au professeur Ntumbalaba. Je pense que avant de réformer quelque chose, la chose que l'on veut réformer doit d'abord exister. Mais il me semble que l'Union africaine n'existe pas encore. Elle n'existe que de nom, on peut lire ça sur le papier, mais en soi, l'Union africaine n'existe pas. Pour que l'Union africaine existe, je voudrais que nous fassions d'abord une différence entre élection, démocratie et puis bonne gouvernance. On peut parler des élections sans parler de démocratie. Donc, l'Union africaine doit d'abord peser pour que, en Afrique, nous ayons des dirigeants élus et légitimes. C'est-à-dire que même les délais de mandat soient tout à fait respectés. À ce moment-là, il y aura équilibre entre les gouvernants et les gouvernés. C'est ainsi que l'Afrique sera d'abord en paix. On doit peser pour qu'il n'y ait pas de révision constitutionnelle à tout bout de champ. Prenons le cas du Rwanda, auquel on a confié la présence de ces travaux. Le Rwanda lui-même vient de réviser sa constitution de telle manière que le mandat est illimité. Mais pourtant, en politique, on dit que le pouvoir corrompt. Figurez-vous, quand un chef de l'État est illimité, s'il peut faire 20-30 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ce pouvoir-là? Ce sont des choses comme ça qui diminuent l'Union africaine. Jusque-là, les pays existent individuellement, ou quand on essaye un peu de s'entourer dans une organisation sous-régionale, je peux, comme Maître Stonville vient de le dire, ainsi que le professeur, parler au moins de la CDAO. Si aujourd'hui il y a stabilité en Gambie, l'effort, le mérite n'est pas attribué seulement aux Gambiens. Donc, moi je pense que c'est à ce niveau-là. L'Union africaine a échoué l'intégration d'abord, l'intégration démographique avant de parler de l'intégration économique. Parce que s'il y a stabilité des pouvoirs, s'il y a l'égalité et légitimité des pouvoirs au niveau des dirigeants, il y aura une confiance mutuelle. À ce moment, nous saurons former un seul peuple. Mais regardez, par exemple, quand on parle de Boko Haram. ce sont seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se battent entre eux. Beaucoup plus le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, Burkina Faso, ainsi de, etc. Et quand il y a nos problèmes aussi ici, avec c'est entre nous. Quand il y a les Al-Shabaab en Somalie, si, il faudrait au moins que les Nations Unies interviennent, mais on ne sent pas la présence de l'Union africaine. C'est parce qu'on ne sent pas sa présence que moi j'ai dit qu'elle n'existe pas. Donc, elle doit d'abord faire un effort pour exister, pour agir. Lorsque son budget, comme le prof vient de le dire, provient à 98% de l'extérieur. Mais vous remarquerez que cette même Union africaine, si elle veut qu'on la prenne au sérieux, elle doit d'abord revêtir du sérieux en son sein. Mais si au niveau même du budget, vous dépendez de l'extérieur, par après vous allez parler de l'ingérence extérieure. Non. Les missions qu'on a attribuées à l'Union africaine, ou que l'Union africaine s'est attribuée, mais c'est pratiquement les mêmes missions que l'Organisation des Nations Unies. Parler de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Seulement, à la seule différence que l'Union africaine en parle en Afrique et l'ONU en parle pour le monde. Mais nous devons être sérieux dans le respect des textes. Mmh. J'ai toujours pris ces cas, j'y reviens aujourd'hui parce que je suis congolais, ça doit m'énerver. Nous avons la CIRGL, qui est l'organisation la moins sérieuse de l'Afrique, où les États membres se battent entre eux. Et ils vont se réunir pour dire non, voilà, alors qu'il y a toute une instruction qui interdit aux autres États de s'ingérer dans les affaires d'un État. Mais vous remarquerez que le Rwanda nous agresse, le Luganda nous agresse, le Burundi nous agresse, et ça ne dit absolument rien. Et comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Que les Africains, que les Africaines commencent d'abord par exister à travers la légitimité, la légalité des pouvoirs.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Mais vous avez quand même ajouté une dimension assez intéressante quand vous avez évoqué l'intégration démographique, en estimant aujourd'hui quand le problème survient dans une sous-région, cette sous-région se bat elle-même. On voit l'Afrique de l'Ouest qui se bat pour le terrorisme. C'est à peine entre eux. L'Afrique centrale, la même chose. Et vous aurez aimé voir l'Union africaine se battre pour cette intégration, mais aussi la consolidation des pouvoirs internes dans la gouvernance, c'est ce qui peut rendre encore l'organisation plus efficace. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et Lamenji, bonjour au professeur Tumbaloaba.
On vous écoute.
Oui, merci Pierrot de la parole que vous m'accordez. Je n'irai pas vraiment très loin du raisonnement de l'ingénieur Valérie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Union africaine, c'est vrai, sur papier, cette réforme, elle est à saluer si réellement elle tend vers le changement de ce que tout le monde est en train de décrier, cette organisation. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, je pense que l'Union africaine pourra mieux faire si elle-même pouvait d'abord s'organiser à son sein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous prenons certaines organisations, pour ne pas citer l'Union européenne, vous allez vous rendre compte qu'en son sein, c'est une véritable démocratie. Ceux-là qui dirigent, c'est vrai, par rotation, ce sont des gens modèles lorsqu'ils arrivent à la tête de l'Union européenne, et certains membres suivent maintenant ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce n'est pas le cas au niveau de l'Union africaine. Hein, n'importe qui, c'est vrai, au nom de la rotation, devient président. Et c'est ce qui fragilise davantage cette Union africaine, parce que lorsque un président X arrive à la tête de cette Union africaine, et les autres pourront dire que non, voilà, il y a ça, ça, ça. Mais moi, j'ai toujours dit, le jour où un chef de l'État de l'Afrique de l'Ouest prendra la tête, donc, de cette Union africaine, je pense que tout le monde pourra sentir le changement. Là, c'est de un. De deux, l'Union africaine doit aussi insister à ce qui concerne ses propres textes. Là, c'est là que je rejoins maintenant l'ingénieur Valérie. Parce que lorsque nous prenons les textes de l'Union africaine, bon, vous les comparez à une structure, bon, une sous-organisation, bon, par exemple la CDAO, vous allez vous rendre compte que le pays de la CDAO ont beaucoup évolué sur le plan de la démocratie. Le pays de la CDAO ont beaucoup évolué sur le plan du développement. Mais contrairement à la CEMAC, la CIEGER, Ce sont des organisations peut-être à la queue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un impulseur, un chef de l'État modèle sur le plan démocratique qui peut impulser les autres à suivre les pas. Et vous prenez l'organisation qui regroupe l'Afrique du Sud, ainsi de suite, donc SADC, et vous allez vous rendre compte que là, il y a aussi certains brebis galeuses qui entrent là-bas pour fragiliser la SADC, contrairement au COMESA. Parce que le COMESA aussi est en train de suivre les pas de la CEDEAO. C'est comme ça que moi j'ai toujours pensé. La vraie réforme commence d'abord par la mentalité, par rapport à la gestion. Là, je rejoins aussi Maître Sanville, par rapport à l'organisation interne d'un pays. Si c'était donc la CEDEAO, vraiment tout le monde allait applaudir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous prenez certains pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, en matière de démocratie. Lorsque le chef de l'État arrive à la fin de son mandat, il ne cherche pas les boucs émissaires pour dire non, voilà, comme au Burundi, comme chez nous. Non. Voilà, Pierrot, la vraie réforme doit d'abord commencer par le plan interne de chaque pays.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez que aujourd'hui, il y a des organisations sous-régionales qui ont plus d'impulsion que l'Union africaine, et il faudrait se battre pour cela, mais nous signalons que nous aurons une émission bilan aussi sur l'existence de l'Union africaine lors de l'anniversaire le 25 mai prochain. Merci Maître Adrien. 081-890-4969 pour intervenir en direct. Ingénieur Gaston, vous gardez la ligne, on va revenir à notre invité.
La MONUSCO continue sa campagne de sensibilisation sur la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la ville de Kinshasa. Ce vendredi 19 mai, à partir de 10h, dans la salle paroissiale Sainte-Anne de la Gombée. Les responsables de la MONUSCO échangent avec plus de 500 professeurs d'université. La SENCO, initiatrice de l'accord du 31 décembre 2016, sera aussi de la partie. Objectif, éclairer l'opinion publique sur la lettre et l'esprit de la résolution 2348 et surtout son appropriation.
Professeur Alphonse Toumbalwaba, vous avez encore suivi nos auditeurs qui sont revenus. Quels commentaires vous pouvez faire par rapport à leurs interventions?
J'apprécie beaucoup leurs interventions. En ce qui concerne l'Union africaine, dire qu'elle n'existe pas, c'est un peu trop fort. Je voudrais raisonner par l'absurde. Si elle n'existait pas, on n'en parlerait pas aujourd'hui. On n'en discuterait pas aujourd'hui. Donc, elle existe, mais il se pose des problèmes de fonctionnement. Même son nouveau président de la commission, M. Moussa Faki Mahamat, encore une fois, je m'excuse pour ma voix, je suis en grippe là, a bien relevé, après le départ de Mme Zuma, qu'il y a des dysfonctionnements sérieux et qu'il faut revoir les méthodes de fonctionnement de la Commission de l'Union africaine pour la rendre plus visible et plus effective. Elle doit répondre aux besoins et aux attentes des populations africaines pour qu'on sache que nous avons une organisation régionale. Il y a des institutions qui siègent, comme le Parlement panafricain. Qui sait que ce Parlement prend des résolutions et qu'elle le porte? Non. Ça devient comme du tourisme qu'ils vont faire chaque fois en Afrique du Sud et puis ils reviennent et on ne sait pas exactement ce qui s'est fait. Mais il y a quand même des choses. Le Conseil Paix et Sécurité a contribué également quand même à prévenir et essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Des contingents africains ont fait un travail appréciable en Somalie et même en République centrafricaine avant d'être relayés ou transformés en force des Nations Unies. Et je voudrais aussi souligner que la décolonisation de l'Afrique est une œuvre grandiose quand même à reconnaître à l'Organisation de l'Union africaine, à l'OEA, Il y avait même un comité de libération animé par un Tanzanien. Mais il se pose quand même des problèmes fondamentaux. Si aujourd'hui on n'avance pas, c'est parce qu'il se pose des problèmes de gouvernance. Et je disais que l'Afrique a des beaux textes. Il y a la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Si l'Union africaine veillait à l'appliquer aujourd'hui et à demander régulièrement à ses États membres de faire rapport sur la mise en œuvre de ce texte, et s'il nommait même un représentant spécial, rapporteur spécial, qui irait dans les États membres, et allant encore plus loin, si on pouvait faire des indicateurs, des paramètres d'évaluation pour classer les États membres selon la mise en œuvre de cette charte-là. L'Afrique de l'Ouest, on a dit, il y a un impulseur. Ça joue beaucoup. Lorsqu'il y a un bon nombre des États qui passent et qui ont la démocratie et qui l'affermissent, alors la région bascule. L'Afrique de l'Ouest a basculé de façon irréversible vers l'affermissement de la démocratie et de l'état de droit. Ce n'est malheureusement pas le cas en Afrique centrale, où il nous faut un tel noyau. Je voudrais chuter parce que je ne sais pas, parce que probablement les intervenants et les auditeurs savent que j'ai été secrétaire exécutif de la CIRGL. De l'analyse de l'Union africaine, on a tendance aussi à glisser vers l'évaluation de
la CIRGL.
Bon, j'ai été secrétaire exécutif pendant 4 ans. J'ai essayé de faire ce que je pouvais faire.
Oui.
Il y a des très bons textes. Je vous donne l'exemple de notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce protocole interdit de modifier la loi électorale 6 mois avant les élections. Ce protocole dit également que les élections à tous les niveaux doivent se dérouler aux dates et périodes fixées par la Constitution et les lois électorales. Et puis, il doit se faire suffisamment à temps, de façon à ce que le contentieux électoral éventuel soit même épuisé avant la fin du mandat en cours des élus concernés. Donc on ne peut pas se trouver devant un vide si on appliquait ce texte-là. Et je termine par dire que le même protocole souligne l'apolitisme et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et dit que elles sont apolitiques, soumises aux autorités civiles, et que les autorités civiles doivent respecter la neutralité de ces forces. Mais alors, lorsqu'on regarde la réalité en Afrique centrale, c'est pas cela. Et signalons aussi que, et au niveau de l'Union africaine, et au niveau de la CIRGL et d'autres organisations, il y a également des textes contre la corruption et pour la transparence. Et malheureusement, je n'ai jamais assisté à l'Union africaine à une discussion sur ce problème de corruption et de non-transparence. L'Union africaine est un acquis, et je crois que la réforme va permettre la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Il faut que les questions qui sont bien traitées et mieux traitées à l'échelle des organisations régionales soient laissées aux organisations régionales et que l'Union africaine se concentre sur l'essentiel.
Merci. On va revenir.
Évidemment, Monsieur Alpha Condé est actuellement, il est de l'Afrique de l'Ouest, hein, je voudrais signaler, c'est lui l'actuel président de l'Union africaine.
Merci. Ingénieur Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Alors, le professeur vient de donner avec beaucoup plus de détails hein, qu'il y a des textes qui prévoient et toutes ces questions qui sont évoquées, des élections, des gouvernances, d'un politisme des forces de défense et sécurité. Pensez-vous que dans la réforme, il faudrait rendre ces textes plus contraignants pour qu'il y ait des sanctions au cas où un État ne parvenait à respecter ces textes édictés au niveau de l'Union africaine. Maître ingénieur Gaston, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste. Permettez-moi de rire parce que votre intervention entre dans ce que je pensais
Les textes sont incomplets et ce qui manque à ces textes, c'est effectivement ce que vous venez de dire. Je crois que ces textes ne sont pas contraignants. Pour que ces textes aient une efficacité par rapport aux pays africains, je pense qu'il faut qu'on prévoie des sanctions concrètes. Nulle part, on a noté des sanctions concrètes. Si on pouvait quelque part écrire que si l'un des présidents d'un pays faisant partie de l'Union africaine, un président sortant qui ne veut pas sortir alors qu'il est sortant, il ne veut pas sortir, le texte devait dire clairement que l'Union africaine prend la charge de les chasser militairement. Tout le monde a soulevé le cas de la Gambie. Ça a été un honneur pour la CEDEAO. Nous avons bien suivi Macky Sall. Il a pris cette question à cœur. Et il n'y a jamais qui donnait l'impression au monde comme s'il était, il avait l'arme nucléaire ici en Afrique. Il a été réduit, je sais pas, à un petit garçon. On ne sait même pas là où il se trouve. C'est parce que la CEDEAO a prouvé son efficacité. Donc l'Union africaine, le problème, c'est aussi le texte, mais les acteurs. Voyez un peu qu'à notre ministre, Géo Kitondo, on le voit en photo avec Kagame. C'est comme une victoire pour le pays. Nous suivons la presse ici. Il a été avec Kagame, il a été avec Museveni. Ces gens qui ne donnent pas une bonne image dans l'Union africaine. Kagame a modifié sa constitution. Il reste, ça a été dit par les prédécesseurs. Donc, il faudra qu'il y ait des sanctions qui sont clairement défini dans cette réforme-là. Je pense que certains des acteurs, comme le président Alpha Condé nous suit, on doit bien dire clairement, surtout à ce qui concerne les mandats. Parce que c'est ça la base des conflits. Quand ils doivent faire ces 5 ans et quitter, il n'y aura pas de problème. Voyez un peu les Ghana, le Sénégal et ailleurs. C'est ça qui pose problème.
Merci
donc
beaucoup.
L'impunité, la corruption vient par, les par le non-respect du mandat.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston. Vous auriez souhaité, comme tous les textes évoqués tout à l'heure par le professeur, que ces textes aient un caractère contraignant, qu'il y ait des sanctions, et c'est de cette façon-là que ces textes pourront avoir en effet. Hein, un beau Francis nous a écrit en disant ceci, je pense que quand un pays comme le Rwanda organise une telle rencontre au niveau africain, ce n'est pas pour le bien de tous, mais c'est avec tout et principalement par rapport à ses intérêts internes, et ainsi veut s'assurer d'un large soutien au niveau international. On doit cesser de nous distraire car le même Rwanda est utilisé comme plaque tournante par certaines puissances occidentales afin de déstabiliser le Congo et du coup le même pays devient celui qui conçoit les axes des diplomaties communes agissantes en faveur des Africains alors que depuis déjà 2 décennies on utilise comme cheval de Troie le laboratoire des ces malheurs. Ça c'est le point de vue de Franck, lui estime que choisir un pays comme le Rwanda par rapport à notre sous-région pour réfléchir sur la réforme, c'est pas bien indiqué. Sylvain, vous êtes à Bounia. Merci d'être avec nous, Sylvain. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Vous avez suivi tout à l'heure l'ingénieur Gaston qui disait la réforme de l'Union africaine, oui, mais si jamais la réforme apportait des textes contraignants, ça peut avoir de l'impact sur les questions de gouvernance, de démocratie et des élections en Afrique.
Oui. Lorsque vous notez la corrélation qui existe entre les opinions des Congolais sur l'existence ou non, sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l'Union africaine, vous vous rendez compte, même avec les explications éminentes du professeur Louaba, c'est qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'Union africaine. Je note 4 grandes observations. La première chose qu'il faut noter, c'est que lorsque vous regardez les opinions des uns des autres, vous vous rendez compte que on dégage clairement que les acteurs de l'Union africaine sont plus dirigés par le goût mercantiliste et pas le goût de changer ou de transformer la société. La deuxième des choses qu'il faut noter, en écoutant les auditeurs qui ont intervenu tout de suite avant moi, c'est qu'il y a un écart négatif entre la pratique politique et les textes qui régissent les États africains. Là, ça pose une question juridique du fonctionnement des États membres de l'Union africaine. Le troisième élément, vous regardez que il y a instauration de certains gouvernements, de certains gestionnaires d'État qui ne changent pas. Donc, il n'y a pas question d'alternance. Et la quatrième observation, en fait, c'est un genre d'hypocrisie des acteurs clés de l'Union africaine. Puisque vous allez vous rendre compte, je ne saurais pas citer les noms des uns des autres, Mais comme je l'ai dit, la majorité des auditeurs qui viennent parler avant moi ont correctement situé la situation, excusez-moi cette tautologie, de l'Union africaine. Donc, je note avec le professeur Louaba, effectivement, comme il a dit, de tous les quatre grands points qui régissent ou qui conduisent même la philosophie de l'Union africaine, ça veut dire les questions politiques, les questions de paix et sécurité, la question d'intégration économique, et la question de l'influence politique et diplomatique sur le site international, j'ajoute qu'à ce niveau-là, il y a un sérieux problème au niveau de l'Union africaine. Est-ce que nous sommes à même de participer dans la gouvernance mondiale? Quels sont les outils de la pratique politique que les États africains ont mis en place? J'ai compris en disant ceci. C'est que si aujourd'hui on veut évaluer ou on veut changer la vision de l'Union africaine, ça veut dire on veut permettre à ce que l'Union africaine réponde aux vrais problèmes du continent, nous avons tout simplement une seule obligation, de faire respecter la charte de l'Union africaine. Puisque rendez-vous compte que si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est puisqu'il y a eu instauration des concurrences politiques entre les acteurs. Et donc, nous ne sommes pas dans la mission initiale africaine. Nous déstabilisons le monde à travers l'instauration des gouvernances médiocres qui échappent aux principes et aux règles de la démocratie. Et donc, nous ne faisons rien. Quelqu'un avait raison de dire que l'Union africaine n'existe pas.
Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Vous estimez qu'il y a une forme de copinage politique entre les acteurs et aussi l'instauration de la gouvernance médiocre, c'est le terme que vous avez utilisé. Et dans ces cas, ça sera difficile. Il faut d'abord commencer par là, au respect de la charte. Le professeur l'a dit, il y a beaucoup de textes aujourd'hui qui peuvent être utilisés pour amener l'Union africaine à jouer son rôle comme il faut. Alors, on va à Lubumbashi, professeur Emmanuel Banuessi. Merci d'être avec nous. On a vu dernièrement, quand il s'agissait de la question entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale, l'Union africaine menaçait de quitter. Pourquoi? Parce qu'elle estime que les poursuites sont plus dirigées contre les Africains. Et à un certain moment, c'est pour retomber à ce que Sylvain disait tout à l'heure, le copinage entre les acteurs. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a eu des actes sincères dans cette démarche de la réforme de l'Union africaine, professeur? Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour tous les auditeurs de Radio Okapi. Enfin, je pense très sincèrement, comme les autres l'ont dit, que l'Union africaine, en fait, doit servir d'outil pour d'abord résoudre des problèmes. Enfin, l'Union africaine a été créée pour ça, pour résoudre des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée dans le monde. Et donc, si l'Afrique veut vraiment être l'acteur majeur des relations internationales, mais également servir les populations africaines, servir les citoyens africains, et elle doit absolument se réformer, elle ne peut pas ne pas se réformer. Maintenant, est-ce qu'il y a une sorte de copinage, comme l'a dit l'intervenant de tout à l'heure? Ben, cela va de soi. Cela va de soi. Or, il faut transcender justement cette accusation qui existe depuis, si vous voulez, l'Organisation de l'Unité africaine. On pensait que l'Organisation de l'Unité africaine et maintenant l'Union africaine constitue un club d'amis, des chefs d'État qui se protègent mutuellement et qui, lorsque les interventions internationales ne rencontrent pas leurs intérêts, pensent qu'ils peuvent utiliser cet outil-là pour justement s'opposer aux décisions qui sont prises. Je pense que c'est ce qu'il faut pour l'instant.
Mais quand on regarde aujourd'hui les questions internes, qu'il s'agisse du Burundi, de la RDC, qu'il s'agisse aussi de l'Afrique de l'Ouest, on a vu quand même de quelle manière la Commission de l'Union africaine y est allée, que ce soit en termes de soit condamnation, soit initiative pour résoudre toutes ces crises. Mais si on doit regarder dans l'avenir, est-ce qu'il faudrait-il dans cette réforme rendre encore plus indépendante la Commission pour éviter qu'elle ne soit pas en train de jouer ses rôles comme si elle répondait à la volonté des chefs d'État? Comme ça, elle ne sera pas assez libre de pouvoir mener des actions plus efficaces sur terrain.
Revenons d'abord à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les positions de l'Union africaine par rapport aux différentes crises. Bon, autant on a vu et l'Union africaine est intervenue pour résoudre certaines crises, notamment en Gambie. On peut noter quand même qu'elle est incapable de résoudre la crise du Burundi, comme elle est incapable de résoudre des crises qui se vivent dans les pays de l'Afrique centrale, notamment ce qui concerne la gouvernance, le respect des constitutions dans certains États d'Afrique, notamment d'Afrique centrale. Et voilà. Enfin, on peut citer, et c'est ce qu'on reproche précisément à l'Union africaine, c'est entre autres ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas inspirer confiance auprès des citoyens africains, parce que l'Union africaine n'inspire pas confiance auprès des citoyens africains, surtout lorsque ces citoyens africains se trouvent face aux dirigeants puissants qui ont les instruments de violence dans leurs mains vis-à-vis des populations qui sont désarmées. On a l'impression que finalement l'Union africaine prend position pour les dirigeants au détriment des populations, de telle sorte que les populations perdent confiance vis-à-vis des l'Union. Mais il y a aussi un problème, évidemment, de l'Union africaine dans l'exécution de ses propres décisions, dans la mise en œuvre de ses propres décisions. Et tout ça demande précisément qu'on puisse réformer l'Union africaine. Mais évidemment, donner plus de pouvoir à la Commission, c'est en même temps, enlever les pouvoirs au chef d'État, c'est-à-dire à l'Assemblée générale. Et là, les chefs d'État ne sont pas prêts à laisser partir une partie de leur souveraineté, de leurs attributs. Ça implique beaucoup d'autres questions qu'il faut faire. Mais il va de soi que pour le moment, l'Union africaine doit se réformer si elle veut d'abord fonctionner normalement. Parce que, en fait, c'est une organisation dysfonctionnelle qui fonctionne presque à peine. Elle a peu de valeur pour résoudre des problèmes. En tout cas, elle n'inspire pas beaucoup de confiance pour résoudre des problèmes à l'intérieur des États. Bon, c'est vrai qu'à la gauche ou à droite, il y a eu telle ou telle autre position. Bon, ils vont essayer de s'impliquer dans telle ou telle autre crise, mais globalement, l'Union africaine, dans sa configuration actuelle, dans son fonctionnement actuel, est incapable de résoudre des problèmes majeurs à l'intérieur des États membres au profit des populations et au profit du progrès sociopolitique, économique de l'Afrique. C'est tous les problèmes à ce niveau-là.
Et rapidement, peut-être en une minute, professeur, mais cette question de rendre des textes contraignants, vous l'avez dit, donner plus de pouvoir à la Commission, c'est comme si les chefs d'État cédaient leur souveraineté. Cela revient au même, que ça sera difficile de pouvoir rendre les textes contraignants aujourd'hui.
Bon, enfin, je crois que à l'état actuel, ça va être difficile qu'on puisse mettre en œuvre cette réforme-là, mais elle est nécessaire, elle s'impose. Maintenant, vous le savez d'ailleurs, c'est ce que les chefs d'État avaient demandé, vous le savez. Bon, quand on a présenté cette réforme, quand le président Paul Kagame a présenté la réforme lors de la dernière du dernier sommet de l'Union africaine, bon, certains ont dit que la proposition du projet était passée comme une lettre à la poste, sauf que certains chefs d'État ont demandé qu'on leur donne un peu de temps. Bon, c'est un langage diplomatique qui, quand ils demandent qu'on leur donne un peu de temps, ça signifie qu'en fait, ils sont réticents sur certains points. Ils ne veulent pas perdre certains attributs, certaines souverainetés qui leur permettent de mutuellement de se protéger et d'éviter d'être désarmés par rapport à une commission qui aurait plus de pouvoir et par rapport aux textes qui seront contraignants.
Merci.
C'est le problème à ce niveau-là. De mon point de vue, je crois que certains chefs d'État vont vraiment chercher à gagner du temps, à s'opposer tant qu'ils trouvent qu'ils sont exposés à la contrainte.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Banuessizé, de toutes ces précisions. On retourne ici à Kinshasa. Professeur Alphonse Toumbaloaba, vous avez suivi encore ces interventions, cette préoccupation, comme s'inquiète aussi le professeur Banuessizé par rapport à la question de rendre les textes contraignants ou donner plus de pouvoir à la Commission. Mais le professeur évoque aussi le fait qu'il y a des chefs d'État qui peuvent rester réticents. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi les questions, le fait qu'un chef d'État se retrouve dans un système où il n'y a pas de limitation de mandat? Exactement, il peut agir pour freiner la réforme, que si on était dans un système où un chef d'État sait qu'après un mandat je pourrais partir, pour lui ça ne peut pas les gêner que l'Union africaine soit réformée pour la rendre plus efficace, professeur Alphonse Toumbaloaba.
J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. C'est vrai, comme je l'ai dit, les textes sont beaux. On a posé le problème de l'Union africaine et également d'autres organisations régionales comme la CAC, la CIRGN, qui ne réagissent pas lorsque des membres permettre que des opérations subversives ou militaires partent de leur territoire contre d'autres pays membres, en mentionnant le Rwanda et la RDC. Il est vrai que l'interdiction de recourir à la force contre un autre membre est consignée dans l'acte de l'Union africaine. Mais plus loin, l'Union dit même que l'Union a le droit d'intervenir dans un État membre sur décision de la conférence dans certaines circonstances graves, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. En ce qui concerne les changements constitutionnels du gouvernement. Le problème qui est là, c'est quoi? Il y a un de nos intervenants qui a parlé d'impulseurs, mm-hmm. de centres impulseurs. Donc, il faut qu'on arrive à un certain moment à avoir au sein de l'Union un cercle vertueux, impulseur. Donc, au moment où les États attachés aux valeurs démocratiques, de l'État de droit, de la séparation des pouvoirs, du respect de la justice, de la bonne gouvernance financière, économique, politique, seront plus nombreux au sein de l'Union africaine, on devrait y travailler. Vous verrez que l'Union africaine va, basculer du bon côté et sera encore beaucoup plus regardant. Mais pour le moment, lorsqu'on dit que ces décisions doivent être prises dans la conférence et que si dans la conférence il y a des chefs d'État qui sont au pouvoir, comme Mugabe, je ne sais, depuis peut-être une cinquantaine d'années et d'autres, cela, comme la décision doit être prise par consensus, donc ils mettent une sorte de veto. Donc ce consensus aussi est un élément de blocage.
Merci.
Il faudrait que ce soit la majorité absolue. Mmh. En ce qui concerne le contrôle, vous savez que l'acte constitutif de l'Union africaine prévoit une cour de justice. On veut les fusionner pour que ce soit cour de justice et de droits de l'homme. Mais le problème, c'est l'ineffectivité de cette cour de justice. On ne sait pas la saisir. Vous savez que souvent, par l'Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de nos régions, la Cour de justice est l'une des dernières institutions à être mise en place. Et lorsqu'elle est mise en place, elle est rarement
saisie. Merci, professeur.
La Cour de justice de l'Union ne fonctionne pas encore.
Voilà, merci.
Il faut aussi que la société civile, nos sociétés civiles soient encore parcellisées dans chaque État membre. On doit avoir maintenant aussi une mutualisation des sociétés civiles des pays membres au niveau du continent.
Merci.
On ait une
merci.
Société civile continentale qui puisse aussi faire pression.
Voilà. Merci beaucoup, professeur, en tout cas de nous avoir accordé de votre temps. Merci en tout cas pour tout, malgré la grippe. Merci de votre disponibilité. On va demander à Franck de placer un mot rapidement. Franck, on a lu tout à l'heure votre message. Vous êtes inquiété du fait que la réforme soit confiée au Rwanda. Mais au-delà des individualités, Franck, c'est très important qu'on arrive à cette réforme en une minute pour terminer cet échange, Franck.
Merci beaucoup. En une minute, nous allons seulement demander que nous ayons d'abord la culture du respect des textes. Parce que quelque part, c'est quand même une moquerie de demander à un dictateur de moraliser son ami dictateur qui ne veut pas partir au pouvoir. Et si nous devons voir les pays limitrophes, Ouganda, Rwanda, Burundi, nous allons vers l'autre côté, nous allons voir les amis vraiment proches de la RDC, ce sont tous les oiseaux du même plumage. Alors, il y en a qui sont au pouvoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'est vraiment avec ces gens-là qu'on peut espérer à mettre en place une démocratie classique?
Oui,
le Rwanda qui est champion pour déstabiliser les États voisins. On va encore lui confier la même responsabilité.
Merci beaucoup, Franck.
Une diplomatie internationale à
distance. Merci beaucoup, Franck. Vous avez rejoint ce que disait tout à l'heure le professeur Ntumbalwaba, que quand on aura beaucoup de chefs d'État basés sur la gouvernance, on pourra bien avoir l'efficacité de l'Union africaine. Nous nous excusons pour Pichu de Bandundu qui devait intervenir tout à l'heure. Dommage. On pourra se retrouver à la prochaine. Merci à toute l'équipe de production des Paroles aux auditeurs. Héritier Denis Diagala était à la mise en onde, Nico Kalamba et à la réalisation. Pierrot et la Mégie vous a présenté ce magazine sous la supervision de Martin Seboujangwe. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci. Mais sinon, l'émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.